Alors, vous êtes prêts pour la séance de torture collective ? Aujourd'hui, c'est un peu dramatique, hein, ce que nous avons à affronter. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi je vous avais demandé la semaine dernière de finir la lecture afin de voir l'ensemble de l'action. Comment se déploie tout ce qui a été posé petit à petit, hein, mis en place. Donc cette classique exposition, comme on dit dans les romans de Balzac, hein, qui consiste à poser des personnages, des lieux, des situations, pour ensuite déclencher une action. Ici, Volodine utilise donc une technique très classique, hein, de préparation, et on a même un peu l'impression, je ne sais pas quelle est votre impression de lecture, l'impression qu'il ralentit volontairement le moment du passage à l'action par des descriptions bien sûr utiles, hein, c'est pas du tout inutile, mais c'est aussi la technique du suspense qui consiste à retarder le plus possible pour susciter l'inquiétude du lecteur avec la possibilité d'un effet négatif lorsque le lecteur n'est pas assez bien accroché, que le lecteur s'ennuie, se lasse et ferme le livre. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais si on a été attentif, hein, à la préparation, l'installation des personnages, je crois qu'on arrive à ce moment du concert, et avec là encore le double sens. Il s'agit d'un concert musical dans un théâtre avec des musiciens qui jouent des morceaux de musique, mais également l'action elle-même avec le public, les miliciens, les militaires, les frondistes dans la salle, le public résistant, si on peut dire, dans un sens, hein, forment comme des parties d'orchestre qui ont chacune à jouer quelque chose dans un concert, là encore, qui est le concert de l'écriture. Alors, avant qu'on entre dans l'action, si vous avez préparé quelques questions, je vous écoute. Est-ce qu'il y a des questions de vocabulaire, de thème? Oui, madame.
En page 53.
Page combien?
53.
53, j'y suis.
Au milieu. Avec sa main, il lui disait que cet individu n'existait pas. Et qu'ils étaient tout au plus des âmes éloignables animées des êtres factices. Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Des imperméables animés.
Alors, les imperméables animés, le mot imperméable revient plusieurs fois, ce sont des vêtements. Des vêtements contre la pluie, donc imperméables. On pourrait dire trench coat, raincoat, dans ce genre, mais avec la connotation qui a été indiquée déjà de personnages des années 50, sorte de stéréotype du cinéma aussi. Et je pense que nous avons tous quelques images dans la tête de policiers ou d'espions ou de militaires avec ce sorte de trench coat, donc d'imperméable, par-dessus leurs vêtements et serré avec une ceinture ou ouvert. Il y a plusieurs possibilités. Mais le phénomène littéraire, c'est de désigner une personne par un vêtement et donc de réduire l'individu à son vêtement, ou plutôt au symbole l'indication de son vêtement et en même temps de effacer toute personnalité individuelle. Et s'il y a par exemple 1000 ou 2000 militaires, on peut les appeler des képis ou des bérets selon le type de militaire, et on efface de cette façon les individus et leurs différences pour n'indiquer que la fonction ou la masse, la quantité. Alors ici, nous sommes dans la situation où les frondistes sont arrivés près du cirque et la petite femme, donc la naine, est effrayée par ces gens, et le clown la prend comme ça à côté de lui pour la rassurer, pour la calmer, et il fait un geste comme ça en disant que ces personnes ne comptent pas, n'existent pas, comme s'il pouvait les effacer de la main. Et donc, avec sa main, il lui disait que ces individus n'existaient pas. Non, fais pas attention, c'est pas grave, je vais m'en occuper. Même si c'est pas vrai, finalement. Dans les guerres, dans les catastrophes, même si la situation est terrible, la mère dit à son enfant, c'est pas grave, ça va aller. Et puis, une minute après, ils sont morts. Bon, c'est un réflexe naturel de vouloir protéger ceux qui sont près de soi, même si ce n'est pas raisonnable. Donc, les frondistes ou les miliciens sont réduits à leur imperméable animé au sens de, avec un mouvement, avec une machine à l'intérieur. Si imperméable fait en effet cette métonymie, hein, la figure de style métonymie, animé réintroduit la notion de mouvement. Alors, un peu comme une machine, une mécanique. Vous voulez qu'on aille plus loin dans le paragraphe? Non, ça va?
Oui.
D'autres questions? Oui, madame.
On a quand même une analyse en anglais que j'ai montré en anglais, j'ai beaucoup. Et c'est que la semaine dernière,
le 42,
oui. Nous avons dit la maison sert pas les meubles et un peu moins les pierres. Première fois, je n'ai pas compris pourquoi on a utilisé les mots pierres. Ça a utilisé seulement les oiseaux. Et vous avez expliqué, c'est signifie lui, quelqu'un. Donc, j'ai examiné comment traduire
dans la
parole.
Ah oui, oui, oui.
Seulement Suzume. Si vous traduisez dans la parole, vous ajouterez quelque chose autour de
Suzume,
comme il
y a Suzume. Oui, ça c'est. C'est un point vraiment très 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 difficile de la traduction, parce que les sens multiples que l'on peut donner dans une langue ne peuvent pas se traduire facilement. Alors c'est vrai que les traducteurs utilisent bien sûr tout leur talent personnel pour traduire, mais ils sont limités par leur langue. Donc si la traduction en japonais Suzume de Piaf ne peut absolument pas être rapprochée d'un terme qui fait penser à juif, parce qu'en plus ça n'existe pas vraiment au Japon, hein, historiquement, il reste une possibilité qui n'est plus de traduction mais de transposition, c'est-à-dire de trouver dans la culture et la tradition japonaise un type d'individu qui serait mal aimé ou détesté ou rejeté, alors ça doit bien exister, hein, des catégories ou des castes comme ça, et de voir si on peut trouver en japonais un mot, un jeu de mots qui se rapproche de ça. Mais là encore, si ça n'est pas possible, on ne peut pas le faire et le traducteur doit choisir. Il doit se séparer d'une partie du sens à la condition que ce traducteur ait vu ce sens. Et ce n'est pas du tout certain. Ce n'est pas une critique du traducteur. C'est tout à fait naturel. Lorsque on a parlé de ce passage la semaine dernière, je vous ai dit donc que, à mon avis, le mot piaf prenait ici trois sens. Le sens de vrai oiseau, le sens de utilisation d'oiseaux figurés pour un être humain, et une possibilité d'allusion au mot juif qui a aussi quatre lettres finissant par un F. Et c'est tout à fait relatif à ma perception. Hein, donc ça peut être variable. On pourrait demander à l'auteur son intention, mais je ne suis pas sûr que l'auteur veuille nous dire plus que ce que dit son texte. Donc on est limité par la polysémie qui n'existe pas en japonais ou qui est différente. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut jouer en japonais avec le mot suzume ? On pourrait faire des choses au susume, mais bon, là, ça correspond pas avec la situation. Vous voyez, je pense que les écrivains japonais jouent avec ça, mais dans la traduction, ils n'y arrivent pas. Alors souvent, lorsque c'est un texte classique, ce qui n'est pas le cas encore de Volodine, les traducteurs ont une autre possibilité qui est celle de la note. Ah oui, alors on voit ça dès que le livre a un siècle, hein, ou un siècle et demi, les traductions ou les nouvelles traductions ont plein de notes en bas en disant, alors ce mot ça veut dire ça, mais il y a aussi le double sens, le triple sens possible. Et pour la littérature contemporaine, on le fait pas, on le fait très peu, parce que on pense que on est assez près de la langue, de la culture, assez proche de ces situations, cet univers de l'auteur, donc on n'a pas besoin de notes. En plus, si on veut vendre la littérature contemporaine, il vaut mieux éviter d'avoir des notes. Parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui regardent le livre, s'il y a des notes, ah non, ça va être compliqué, ça va... Bon, je pense pas que ce soit votre réaction, mais beaucoup de lecteurs comme ça dans la librairie. Voilà, alors on va retrouver d'autres expressions d'oiseaux aujourd'hui. Vous en avez rencontré quelques-unes. On verra si vous les avez toutes identifiées. D'autres remarques ? Alors aujourd'hui, je vais peut-être commencer par vous lire une partie du passage qui était, disons, programmé pour aujourd'hui, c'est-à-dire des pages 89 à 105. Et après cette lecture, on va revenir un peu en arrière pour voir comment la situation est arrivée à ce point. Alors, page 89, à la deuxième ligne, il était 8 heures. Il était 8 heures. Là-bas, quelque chose avait changé. Des milliers de poitrines exhalèrent une effrayante ovation. Et presque aussitôt, nous entendîmes des bruits de semelles et des voix qui résonnaient dans le hall. Balint Zagebel respectait donc l'horaire. Je m'obligeais à ne pas m'intéresser à son entrée dans le théâtre, à ne pas réagir, à l'ignorer, à ne pas l'accueillir, lui et ses hommes, par une quelconque lueur de mes yeux. Grisé par les acclamations, il venait de monter à l'assaut du théâtre en compagnie de ses sections de choc, comme s'il s'était agi d'un objectif militaire. Je ne voulais pas que mon attitude participât à son triomphe. Dovna, elle non plus, ne tournait pas la tête vers l'arrière. Auprès de nous, amis et inconnus avaient adopté une ligne de conduite comparable. Nous ne disposions guère de moyens pour exprimer aux frondistes le mépris que méritaient leurs agissements et leur philosophie. Pour leur rappeler qu'ici, au centre de l'attention, étaient la scène, la musique, les musiciens et non les forces spéciales de mélomanes à idéologie kaki, à idéologie difforme, velue et brunâtre. J'avais glissé mon bras droit sur le mantelet de Dovna. Nous frémissions tous deux, en proie à l'indignation, à un courroux mêlé de peur. Nous nous sentions moralement heurtés par le déferlement des uniformes, mais blessés plus encore par notre très mauvaise perception de ce que les uniformes avaient en tête. Dans les travées, enfla un tumulte qui se désirait euphorique. Avec une nonchalance rieuse, les militants se répartissaient sur les côtés du parterre, occupaient les loges, les galeries. Je comptais voir se déplier depuis le poulailler une de leurs banderoles honteuses, mais rien de tel ne se produisit. Seulement leur arrivée en troupeau chahuteur, assez ordonnée cependant, pour qu'au bout de brèves minutes, ils eussent réussi à s'asseoir partout dans la salle. Je n'ai jamais su évaluer les groupes, mais il me semble que le chiffre de 300, déjà en soi considérable, avait été dépassé. Au milieu de cette confusion, les lustres latéraux s'éteignirent et la rampe s'alluma, ainsi que les projecteurs des cintres. Les musiciens vinrent poser leurs instruments et leurs partitions. Ils ne jetaient pas un coup d'œil à l'assemblée, dont la rumeur n'annonçait aucun recueillement. Mais au contraire, l'excitation inculte qui précède les matchs de boxe. « Ils ne pourront pas jouer, » me chuchota lugubrement Dovna. « Non, ils ne les laisseront pas jouer, » pensais-je à mon tour. Nous compatissions de tout cœur avec les membres du Quatuor. Leurs noms se réverbéraient de façon mécanique à la frontière de ma mémoire. Murtaza Chopalaf, Ansaf Vildan, Dimirci Makionian et Chaki Esterkan, l'altiste. Il fallait beaucoup d'héroïsme pour être là, pour avoir admis la confrontation avec un tel public, pour accepter l'idée de devoir bientôt retirer les instruments des étuis, vérifier leur accord et, d'un archet ferme, sans montrer qu'au trac ordinaire s'était substituée une lassitude malsaine, attaquer la première mesure d'une première œuvre. Chopalaf, Vildan, Dimirci Makionian et Chaki Esterkan regagnèrent les coulisses. Nous n'avions pas applaudi pour saluer leur transitoire apparition. En revanche, une plaisanterie déclencha une huée de rire sur l'aile gauche du parterre, bientôt amplifiée par une cascade de lazzi révoltants et par un échange de bons mots d'un niveau à l'autre de la salle. Puis tout se tut soudain, comme à la suite d'un ordre. J'avisai alors, debout dans une loge, jouxtant la loge d'honneur, l'acteur médiocrement célèbre des années 40 ou 50, l'éternel second rôle du cinéma de deuxième catégorie, en qui aujourd'hui chacun pouvait identifier son droguiste, son charcutier ou son leader. Balint Zagebel promenait sur ses troupes un regard énergique, conquérant, sévère. Plusieurs hommes l'accompagnaient, engoncés dans des manteaux beige clairs ou des capotes de cuir gris. L'un des acolytes avait dû faire signe à tous de se tenir coi. Il y eut une longue pause de calme surprenant. Les sections spéciales ne bavardaient plus, méditaient ou somnolaient, évitaient de constater notre présence. Balint Zagebel recula dans les semi-ténèbres de la loge. Les autres de son entourage s'assirent, à l'exception d'un garde du corps qui se planta près d'un bouquet de fougères stylisées, avec ce faciès qu'arborent les sentinelles quand elles ont reçu le droit de tuer sans sommation. Les frondistes ne dévoilaient toujours pas leurs intentions. comme la salle était à présent comble, on avait fermé les portes capitonnées et les tentures, de sorte que les bruits du meeting-spectacle avaient décru, réduit ou presque à zéro. Voilà. Alors, je m'arrête ici pour cette première partie. On a commencé à la page 89 par « Il était 8 heures » à la deuxième ligne. Et on a vu déjà, la semaine dernière et avant, que la narration s'organise autour de la progression de l'heure dans cette journée du 27 mai. On était d'abord dans l'après-midi avec la libération des trois prisonniers, donc ex-prisonniers maintenant. Et puis, l'après-midi, dans la matinée, au début. Ensuite, il y a eu la pause de midi avec des ouvriers qui avaient interrompu leur travail. Puis, l'après-midi, etc., etc. En arrivant dans la deuxième partie, nous avons vu que le narrateur prenait la parole, cette fois très fermement, avec son « je » et son point de vue personnel. Dans la première partie, le narrateur n'était pas présent, sauf une ou deux petites apparitions de « je » que nous n'arrivions pas bien à situer, à comprendre. Mais dans cette deuxième partie, c'est vraiment lui qui raconte. Cela modifie un peu notre sensation de lecteur. Dans la première partie, il y a une sorte de vision panoramique, comme si quelqu'un était au-dessus de la ville et pouvait voir ce qui se passe ici ou là, à la façon du narrateur omniscient, le narrateur qui connaît tout. Et puis dans la deuxième partie, au contraire, nous avons seulement le point de vue. Le point de vue d'un seul individu qui essaye de comprendre à partir de ses connaissances et qui ne sait pas du tout ce qui se passe ailleurs. Alors peut-être on pourrait comme ça, sans que ce soit une opposition, ça n'est pas une opposition entre deux mots, mais voir un changement entre première et deuxième partie. Première partie, un narrateur omniscient. Deuxième partie, un narrateur conscient. Alors le « scient » évidemment est le même, qui vient de la science de la connaissance, et le « con » C-O-N, qui indique « ensemble », avec son ami Dovena, mais également avec les autres participants du concert. Alors, ces autres participants du concert, ils seront nommés une ou deux fois les mélomanes. On utilise ce mot pour indiquer l'amour de la musique, principalement. Donc les mélomanes, ce sont les gens qui apprécient beaucoup la musique, qui vont au concert de musique. Mais dans mélomane, on ne peut pas s'empêcher d'entendre tout de même le mélo qui est aussi, au sens simple, de mélo, une sorte de genre d'histoire où les sentiments ont beaucoup d'importance. Et donc on dit que cette histoire, c'est un mauvais mélo, qui est une abréviation alors de mélodrame. Mélodrame. Et puis, puisqu'on en est à des genres, à des catégories comme ça d'œuvres, un peu plus tard, dans le texte, sera employé le mot « tragédie ». Alors la différence la plus importante peut-être entre le mélodrame et la tragédie, c'est que dans le mélodrame, il peut y avoir des changements de la situation, des rebondissements dramatiques, mais avec l'idée qu'on ne peut pas prévoir comment ça va se passer. Donc, on ne connaît pas à l'avance la fin d'un mélodrame. Même si c'est un mauvais mélodrame, il peut y avoir des choses inattendues. En revanche, la tragédie, elle, est d'avance connue. Le mot tragédie, avec son sens ancien, depuis les Grecs, signifie en effet que toutes les conditions ont été posées et que la fin ne peut pas être différente, ne peut pas avoir de rebondissement inattendu, sinon ça n'est pas la tragédie. Et comme on a parlé aussi de l'espèce de lenteur avec laquelle les choses se posent, et puis dans cette deuxième partie, on va le voir tout de suite, des sentiments du narrateur avant le concert, lorsqu'il est passé une première fois dans ce quartier pour aller chercher son ami Dojna, il dit des choses très claires sur la possibilité de ce qui va se passer. Et qu'est-ce qui est tragique ? C'est que voyant cette possibilité de ce qui va se passer, de ce qui pourrait se passer, le narrateur et son ami Dojna décident de venir quand même au concert. Et même à l'intérieur de la salle de concert, lorsqu'on attend les musiciens, même si on craint le pire, il y a toujours à l'intérieur d'eux une sorte d'espoir incroyable qui serait à un moment d'ailleurs exprimé. Est-ce que la grâce de la musique ne pourrait pas toucher les fondistes, c'est-à-dire les émouvoir et les faire évoluer pour devenir à leur tour des mélomanes? Mais cet espoir est complètement ridicule. Et donc cette forme de pensée qui consiste à garder un espoir minuscule malgré toutes les conditions du pire, c'est évidemment la volonté de participer jusqu'au bout à la tragédie. Alors si le narrateur « Oh non, je comprends bien la situation, vu comment ça se passe, je n'y vais pas. » C'est une forme d'intelligence aussi, hein. On évite les problèmes. Et ça permettrait de sauver la vie de son ami aussi, hein, puisque c'est elle qui va mourir. Alors voilà, dans ces jeux entre les genres, à partir du mot mélomane, bon, j'ai un petit peu dérivé, mais on retrouvait ces informations. Et donc lorsque le narrateur dit à la page 89, écrit « Il était 8 heures », il faut bien penser que il doit se trouver, au moment où il écrit, dans une situation évidemment postérieure, hein, bien après les événements. Selon nos habitudes, c'est quelqu'un qui est encore vivant, parce que s'il est mort, il ne peut pas écrire. Il faut se méfier, parce qu'avec Volodine, même après la mort, on peut écrire ou s'exprimer. Bon. Mais normalement, il est encore vivant et il est après. Et il se souvient et il essaye de reconstruire l'emploi du temps. C'est quelqu'un qui essaye de raconter précisément comment ça s'est passé. Ce qui est tout à fait différent d'un narrateur au présent. Quelqu'un qui écrirait au présent, il est 8 heures, on ne sait pas ce qui va se passer, on est là, on attend. Bon, il n'y a pas de tragédie, au sens où on ne peut pas prévoir vraiment ce qui va se passer. Le fait d'être après et d'écrire ce qui s'est passé avant nous permet de savoir que le narrateur sait très bien ce qui va se passer. Donc, toute son écriture est orientée vers l'exposition de ces événements. C'est une écriture qu'on pourrait dire téléologique. une écriture qui vise à un but précis et non pas une écriture au présent qui ne connaît pas son avenir. Donc la téléologie, hein, c'est la connaissance de ce qui est loin. Alors on utilise en général pour l'avant, pour devant. Donc nous sommes dans une reconstitution horaire. Et lorsque le narrateur passe devant le théâtre dans l'après-midi, c'était donc à partir du début de la deuxième partie, hein, la page 65. Dès la page 65, l'horaire, la notation de l'heure, a une importance décisive. Page 65, elle m'avait prié de sonner à sa porte aux environs de 7 heures. Et donc, pour l'instant, il est un peu plus tôt et il se dirige vers chez elle. À la page 66, au milieu de la page à peu près, la circulation avait déjà été interrompue à ce moment, virgule, 7h moins 20, à peu près au milieu de la page. Donc vous voyez comment l'heure apparaît comme ça, de façon assez marquée, pour montrer justement la progression, l'évolution, le développement de la situation. Alors, à cette page 66, justement à 7h moins 20, la circulation avait déjà été interrompue. C'est-à-dire, les rues autour de la place ont été bloquées et la place elle-même est en train de se transformer en autre chose qu'une place. Je lis la suite, hein, juste après 7h moins 20. Dans tout le quartier, les frondistes pullulaient. Pullulaient, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup partout. Sans brassard, avec brassard, en civil, en uniforme, en survêtement, gris, beige, kaki, fripé ou tiré à quatre épingles, l'air bon enfant, l'air survolté, l'air hautain. Donc toutes sortes d'activités, de fonctions différentes, de métiers différents, qui sont organisées, qui sont coordonnées. Hein, c'est une organisation parfaite. Organisation, coordination, et tout ça se déroule d'une façon très bien préparée. Et la première hypothèse du narrateur, c'est une manifestation. Il écrit « Une manifestation se préparait, et ma première réaction fut d'espérer qu'elle serait ébranlée à 8 heures. » C'est-à-dire, on rassemble le cortège, les participants, et ensuite la manifestation démarre pour aller vers un autre endroit. Alors, il s'agit ici d'un élément culturel tout à fait banal pour les Français, mais qui n'est pas banal pour les Japonais. Puisqu'en effet, au Japon, on manifeste assez peu dans les rues, et je le constate chaque année avec mes étudiants à l'université, lorsque dans les thèmes des cours de français arrive le thème de la grève, de la manifestation, de la contestation, les étudiants sont très étonnés. Alors vous l'êtes moins parce que vous avez d'autres expériences et d'autres connaissances, mais pour des jeunes gens de 18-20 ans, oh, c'est tout à fait incroyable. Évidemment, en France, c'est une banalité. Dès qu'il y a un problème, on va manifester dans la rue. Je ne dis pas que c'est bien, hein. C'est juste un élément de la culture française. Point. Donc, hypothèse, une manifestation se préparait. Voilà, on voit tout ça. Et puis, peu de temps après, il sera obligé de penser que cette hypothèse n'est pas valable parce que les installations qui sont en train d'être préparées, mises en place, ne signifie pas que la foule va se déplacer. Au contraire, on bloque les rues, on installe des machines, des projecteurs, des banderoles au mur, en passant d'ailleurs dans les maisons, hein, chez les gens, qui n'ont absolument pas le droit de refuser. Donc c'est un viol de l'intimité ou de la propriété privée. Et il y aura bien quelque chose qui va se passer ici. Alors finalement, ça s'appellera meeting-spectacle. Meeting au sens de réunion politique, hein, avec des orateurs, et spectacle avec le cirque. Presque en bas de cette page 66, à quatre lignes en bas, puis je soupçonnais le parti frondiste, hein, bien sûr, d'avoir en tête le boycott du concert. Le boycott. Alors ce mot boycott, vous le connaissez sans doute aussi. Il est passé, je crois, dans toutes les langues. Il signifie d'abord, interdire. Premier sens de boycott, c'est interdire par une mise en quarantaine ou un isolement de quelqu'un, interdire l'exercice de son activité professionnelle. Alors, à l'origine, je crois qu'il y avait un monsieur boycott, quelque part aux États-Unis ou en Angleterre, j'ai pas vérifié, qui avait décidé d'augmenter le prix de quelque chose, et pour protester contre cela, tous les gens autour l'avaient en quelque sorte isolé, mis en quarantaine. Bon, on connaît ça maintenant, lorsqu'il y a un problème, on décide de boycotter une marque, un magasin, un commerçant ou autre chose. Bon, on n'y va pas, hein, simplement on n'y va pas. Et puis le sens plus général aujourd'hui, c'est refuser de participer à une action publique ou collective. Donc le boycott du concert, qui serait donc une façon d'interdire le concert sans le dire, mais simplement on empêche les gens d'entrer. Et en effet, pourquoi le narrateur soupçonne ? Eh bien parce qu'au programme de ce concert, tout en bas de la page 66, il y avait plusieurs compositeurs susceptibles d'irriter la fibre intolérante des idéologues. La fibre, en quelque sorte, c'est leur matière, hein, à l'intérieur d'eux, leur personnalité, leur matière, leur nature intolérante. Alors, le narrateur donne des exemples. Quant au Gilas lui-même, hein, qui donne son nom au quatuor, c'est quelqu'un qui a refusé de céder, de participer au système tel qu'il est présenté. Donc il avait, page 67, hein, troisième ligne, maintes fois exprimé son opposition aux croisades qui s'annonçaient contre les pays pauvres, etc. Un autre, c'est Naiso Baldacchan, avait deux fois rompu avec Chant Rouge, c'est-à-dire il avait décidé de partir, hein, de s'exiler. Un autre, Tamian Ishkuat, lui, avait été l'objet d'une campagne de dénigrement au début des années 60, campagne de dénigrement, c'est-à-dire un ensemble de propos dans des journaux ou dans des rumeurs pour insulter, dire du mal d'une personne. Et ainsi de suite. Et puis une autre raison, au milieu de la page 67, qui ne concerne pas les compositeurs, mais les musiciens eux-mêmes, les noms nègres des instrumentistes avaient aussi, je crois, de quoi crisper le patriotisme tatillon des frondistes. Donc les frondistes sont bien sûr patriotes, xénophobe, tout le monde connaît le mot xénophobe, oui, xénophobie, hein, c'est la détestation de l'extérieur, un xéno c'est à l'extérieur des frontières, donc les gens qui détestent les étrangers, simplement parce qu'ils sont étrangers, pas tel ou tel étranger, hein, mais tous les étrangers, c'est la xénophobie, en fait c'est surtout la différence. Donc on aime ceux qui sont comme nous, et on aime que ceux qui sont comme nous et on n'aime pas tous ceux qui sont différents. Ça, c'est la xénophobie. Alors donc, patriote, xénophobe, tout à fait logique hein, dans ce groupement politique des frondistes, et évidemment, les noms des musiciens dans cette société apparaissent clairement comme des noms d'origine étrangère. Alors, pour vous et pour moi également, le nom de Zagebel n'est pas plus naturel que le nom de Esterkan ou Baldachian. Donc, je suis obligé moi-même, et tout à fait comme vous, hein, là, la différence entre français et japonais n'existe pas, je suis obligé de me dire, bon, dans cette société, le nom de Zagebel est normal. Comme si c'était un nom japonais parmi les japonais. Et en revanche, le nom Esterkan sonne comme un nom étranger. Donc, on ne peut pas le savoir, hein, nous. Mais un seul indice vous permet de le penser. Dans ce livre, le seul nom de famille qui soit accepté, qui soit acceptable, qui soit de l'intérieur de Champs-Rouge, c'est Zagebel. Aucun autre individu n'est nommé parmi les frondistes, parmi les habitants normaux de cette société. En revanche, tous les autres noms autres donc que Zagebel, tous les autres noms difficiles pour nous tous sont des noms étrangers. Alors ça, c'est une indication très forte. Si le roman avait été une sorte de roman réaliste, à la façon de Balzac ou de Zola ou d'autres écrivains, il y aurait certainement d'autres noms propres de frondistes qui interviendraient, hein, qui joueraient leur rôle. Et on pourrait bien voir la différence entre les noms bien et les noms pas bien. Donc ici, c'est simplifié de cette façon. À la page 67, en bas de la page 67, le narrateur qui donc passe par là, qui regarde un peu comment les choses s'organisent, est lui-même bousculé par quelqu'un. Et bien sûr, il ne répond pas, il ne provoque pas celui qui l'a bousculé. Et il ressent que cette attitude d'un frondiste correspond bien à un danger dont on pourrait se méfier plus. Alors, donc page 67, les 7 ou 8 dernières lignes en bas de la page, « Je m'écartais, assailli par le sentiment de gêne physique que provoque toujours en moi le contact avec l'agressivité brute des gens qui cherchent à vous nuire. » Alors, cette gêne physique correspond bien à une nature. Ici, c'est très important de voir l'opposition qui est faite entre, d'un côté, les frondistes, et ici en particulier, un type de frondiste que l'on appelle nervi. C'est 4 lignes avant la fin de la page 67, hein, la 4e ligne en bas. Bien que dépourvus de finesse, les nervi ont un instinct pour identifier en une seconde ceux qui ne sont pas de leur bord. Alors, nervi, N-E-R-V-I, c'est un mot qu'on utilise pour indiquer quelqu'un qui montre sa violence, qui utilise naturellement sa violence et qui veut utiliser cette violence au service de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, souvent, dans un service d'ordre, dans une police, dans un groupe militaire, on va trouver des gens qui aiment la violence et qui ont choisi ce genre de travail justement parce qu'ils aiment la violence. Et plutôt que d'être violent tout seul, gratuitement, dans la rue, ils vendent leur violence, ou plutôt le travail qu'on leur donne la liberté d'être violent comme il le souhaite dès que l'occasion se présente. Et là, Il y a donc d'un côté des gens qui aiment la violence et qui souhaitent l'utiliser d'une façon plus ou moins légale si c'est possible, et de l'autre côté des gens comme le narrateur qui ne supportent pas la violence, mais qui ne la supportent pas d'un point de vue physique. Hein? Et donc le narrateur dit bien « le sentiment de gêne physique que provoque toujours en moi ». Donc le nervi, d'un côté, pour lui c'est un plaisir physique, un peu instinctif aussi, bon il aime bien se battre, hein, c'est quelque chose de physique aussi. Et de l'autre côté, d'un point de vue physique, un refus de la violence. Et je crois que là, il y a une séparation de l'humanité en deux catégories, donc je ne dis pas deux races, hein, mais c'est presque une bonne occasion d'utiliser le mot race, qui sont très rares en français, à propos d'êtres humains. Une race de ceux qui aiment la violence, qui n'ont pas peur de l'utiliser, et une race de ceux qui ne supportent pas la violence, qui ont peur d'elle et qui ne savent pas l'utiliser. Alors, lorsqu'on est un petit enfant, les parents disent « Oui, il faut essayer de faire un peu du judo, de la boxe, du karaté, pour s'habituer, pour s'adapter. » Mais on peut bien sûr le faire, on peut apprendre des règles pour contrôler, pour supporter, pour apprendre la violence, aimer d'une certaine façon. Mais on voit assez facilement dans ces cours pour les petits-enfants ceux qui vont aimer et ceux qui ne vont pas aimer. Hein, ça, l'humanité se sépare en deux de cette façon. Et alors, les nervis sont des gens qui aiment la violence, et lorsqu'ils sont vus par le narrateur, ils sont considérés un peu comme des gens sans intelligence, un peu comme des imbéciles, presque des animaux. C'est le point de vue du narrateur. C'est peut-être pas la vérité. Et donc il dit que malgré leur apparence presque animale, ils ont une sorte d'intelligence. Cette intelligence, c'est de sentir ceux qui ont peur de la violence. De la même façon qu'on dit que devant un chien, il ne faut pas avoir peur parce que le chien va sentir la peur. Et alors moi je ne sais pas si c'est vrai hein, cette histoire, mais est-ce qu'il y a des animaux qui peuvent sentir la peur d'autres animaux, la peur des êtres humains? Bon, tout à fait possible. Et il y a peut-être donc alors des êtres humains qui peuvent sentir, ou bien qui peuvent reconnaître dans l'apparence d'une personne quelqu'un qui est bien habillé, quelqu'un qui se tient comme ça. Évidemment, c'est pas quelqu'un qui fait du karaté. Bon. Donc, il y a un comportement, une façon de se comporter qui indique si on est de tel ou tel côté de l'humanité, hein, du côté de ceux qui aiment la violence ou du côté de ceux qui ne l'aiment pas. Évidemment, j'exagère un peu hein, la situation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens au milieu qui peuvent passer d'un côté à l'autre selon la situation. Il faudrait d'ailleurs développer l'intérêt de ce qu'on appelle les arts de combat, les arts martiaux en particulier, d'origine extrême-orientale, qui permettent d'apprendre, de contrôler la violence, hein, de savoir l'utiliser, au lieu simplement d'avoir une réaction positive ou négative. Donc, je ferme la parenthèse des arts martiaux. Donc, un instinct, d'un côté ou de l'autre, finalement, du côté des non-violents, il y a un instinct pour reconnaître les violents, et du côté des violents, il y a un instinct pour reconnaître les non-violents et aller les bousculer, leur taper dessus pour s'amuser, hein, gratuitement. Donc, le narrateur s'écarte et il comprend que quelque chose est en train de s'organiser. Au milieu de la page 68, des groupes s'agitaient aux fenêtres des étages supérieurs afin de déployer les bannières du frondisme. Donc, on est monté dans les immeubles, on a déranger des gens, obliger des portes à s'ouvrir, et puis des fenêtres, et on installe comme ça des longues banderoles. Alors, juste après, il y a le sigle, donc je lis la suite. Inévitable dès qu'une concentration de masse doit avoir lieu, rouge bordeaux, gris souris, et au centre d'un cercle blanc éblouissant, les lourdes pattes noires de leur sigle, l'araignée bancale, à peine stylisée, en laquelle, avec ferveur, ils s'identifient. Donc les frondistes s'identifient à ce symbole de leur parti, qui est plusieurs fois dans le livre nommé comme une araignée, araignée bancale, araignée stylisée, et qui, bien sûr, nous fait souvenir de la croix gammée des nazis, qui est en fait une stylisation de S, hein, de S, des deux S de SS, une stylisation qui est comme ça articulée, et qui reprend à l'envers le symbole bouddhiste qui s'appelle svastika, qu'on appelle la svastika. Et aujourd'hui, en France en tout cas, ce que j'ai pu constater avec beaucoup de gens, c'est que on connaît peu le bouddhisme en France, donc on connaît peu la svastika et son existence depuis très 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 longtemps, et en revanche, on connaît très bien la croix gammée. De sorte que si un bouddhiste en France montre une svastika, il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est un truc nazi, ça !» Excusez-moi, la svastika existait longtemps avant, etc. Mais ça montre bien le piège de la méthode nazie, qui consiste justement à prendre quelque chose qui existe déjà et à le transformer au point, et ensuite à le répéter hein, grâce à la propagande, au point jusqu'à effacer la connaissance de ce qui était avant. Alors c'est exactement ce que je disais la semaine dernière à propos de redéfinition des mots, et par exemple du mot oiseau. Alors le mot oiseau, on va comme ça dire, bon ben ça c'est pas des oiseaux, les oiseaux c'est pas ça, etc. Non. Et petit à petit le mot oiseau se trouve redéfini et on oublie le sens d'origine. Alors je vous avais promis des références à ce sujet, au sujet de l'Allemagne nazie. Il y a donc un professeur qui a étudié le langage des nazis dès le début, c'est-à-dire les années 1930 en Allemagne, un juif allemand, et qui a tout noté, enfin noté beaucoup de choses, ce qui était dans les journaux, ce qui était à la radio, ce qui était sur les affiches, et montré progressivement comment, de semaine en semaine, de mois en mois, les mots évoluent. Alors vous pourrez aussi regarder pour une connaissance rapide, mais déjà bien approfondie, la page Wikipédia de ce professeur qui donne des exemples justement des mots dont le sens avait été transformé. Alors, il s'appelle Victor Klemperer. Son livre, enfin le titre de son livre est généralement simplifié au troisième. Non, c'est pas ça, qu'est-ce que c'est ? Moi je dis LTR. C'est la langue du Troisième Reich. Donc le titre en allemand est différent, reprend d'ailleurs les mots en latin, mais si vous cherchez avec son nom, vous allez trouver facilement des informations. Voilà, alors ce travail est bien connu des historiens et correspond à quelque chose d'important qui est de pouvoir étudier comment la langue est utilisée par le pouvoir. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de médias de tous les côtés et nous avons l'impression que la langue est tout à fait libre, quelque chose de fluide, et que chaque personne qui parle a la liberté de choisir ses mots. Mais c'est une impression, seulement une impression, et lorsqu'on étudie en détail ces phénomènes linguistiques, on s'aperçoit que l'utilisation de certains mots, pas tous, hein, mais certains de temps en temps, est en quelque sorte contrôlée, conditionnée, mise sous condition, un peu à la façon de ce que le russe Pavlov avait étudié pour les animaux. Donc je pense que tout le monde connaît Pavlov et ce qu'on appelle en français le réflexe pavlovien. Il s'agissait pour Pavlov d'abord avec un chien, d'habituer un chien à associer un mot à une nourriture, par exemple. Et de cette façon, lorsqu'on répète la chose plusieurs fois, le chien s'habitue et ensuite son réflexe est conditionné. On peut utiliser cela de façon positive ou de façon négative. Vous avez peut-être vu, après le tremblement de terre de Haïti, il y a 2 semaines, il y a des chiens qui servent justement à rechercher les personnes qui peuvent être coincées dans des ruines de bâtiments. Et j'ai été très étonné de voir un reportage où un chien cherche comme ça sang et d'un seul coup s'arrête et fait pipi. Alors je dis, c'est bon. Et le maître du chien explique au journaliste, ça veut dire que le chien a senti que quelqu'un était mort. Et donc, tant que le chien cherche, et s'il aboie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de vivant, et si le chien s'arrête et fait pipi, ou fait le geste, parce qu'il ne va pas faire pipi tout le temps, simplement l'attitude du chien signifie quelque chose. Et ça veut dire que ce chien a été conditionné par un entraînement de type justement pavlovien pour avoir cette réaction. Et bon, pour les sauveteurs, ça veut dire que c'est triste, mais il y a peut-être des vivants à chercher ailleurs. Donc, on déplace le chien et une autre équipe qui fait un autre type de travail peut venir à cet endroit. Bon, voilà donc pour le réflexe pavlovien. Et je crois que dans la langue, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que lorsque un pouvoir politique, un groupe industriel décide de nous faire aimer ou de nous faire détester quelque chose, eh bien, ils vont utiliser des moyens de la langue, et aujourd'hui plus sophistiqués, de l'image, de la publicité, de la propagande, pour nous faire aimer ou détester cette chose. Ça peut être une boisson, quelque chose à manger, ou un chapeau, ou n'importe quoi. Donc voilà d'un côté l'installation sur la place. À la page 69, la sensation du narrateur progressivement se modifie, évolue, il comprend un peu mieux la situation, et il dit donc à la quatrième, cinquième ligne, les frondistes s'installaient ici non pour organiser le départ d'une manifestation, mais pour un meeting. Donc, le concert risquait de se voir fortement perturbé. On voit bien comment les choses sont annoncées, senties, prévues, et pourtant, il viendra. Et quelques lignes, 3 lignes plus bas, même s'il est mélomane, comme disent les journaux, pouvait s'y rendre sans dommage. Donc, on a publié l'information que ceux qui aiment la musique, entre guillemets mélomanes, comme disent les journaux, peuvent venir. Donc c'est comme si on installe une sorte de piège et on dit, eh bien, ceux qui aiment la musique peuvent venir. Alors on fait ça aussi avec les souris, vous savez, on met un truc en bois comme ça avec un ressort et on met un morceau de fromage et on dit aux souris, vous pouvez venir. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand la souris prend le morceau de fromage, pof, elle se trouve coincée, piégée par le piège. Donc, un piège à souris. Ici, c'est exactement la même chose. On installe un piège et on dit aux gens, vous pouvez venir, il n'y aura pas de problème. Évidemment, c'est un piège. Ce piège, un petit peu plus tard, sera nommé la nasse. Type de piège, par exemple, très courant pour les poissons. Hein, il y a au Japon de très belles nasses traditionnelles. C'est pas nouveau. Alors, je ne m'attarde pas sur cette mise en place. À la page 71, cinquième ligne. Peu à peu se dévoilait la structure logique de l'ensemble. Un espace scénique serait dégagé devant l'escalier du théâtre. Il comporterait des estrades ménagées sur le toit de deux ou trois véhicules, des couloirs intermédiaires et une aire circulaire dont l'axe coïnciderait sur le sol à la ligne qu'emprunteraient les funambules pour leurs évolutions. Alors les funambules, ce sont ceux qui marchent sur un fil au-dessus de la foule avec une barre comme ça, ou sans barre d'ailleurs, et en général on installe la foule autour, mais pas juste en dessous. Il y a toujours un risque. Et puis, en bas de la page, 71 toujours, la tribune et quatre lignes du bas, le peuple assisterait au double spectacle organisé en son honneur. Premier volet du diptyque. Diptyque, ça veut dire œuvre en deux parties. Les numéros de cirque. Et deuxième volet, la matérialisation entre ciel et terre parmi de formidables araignées des meilleurs moralistes contemporains. Donc là, c'est une sorte de métaphore, matérialisation des meilleurs moralistes contemporains, c'est-à-dire des discours de Zagebel ou d'autres ministres du régime qui pourraient venir parler. Donc deux parties, le cirque et le discours. Alors voilà donc ce qui est prévu dans cet espace de la place devant le théâtre. Il y a donc maintenant une situation avec côte à côte deux lieux de spectacle, on va dire traditionnels, qui se trouvent en quelque sorte pour l'instant pas opposés, mais simplement rapprochés. En effet, le théâtre ou salle de concert est en général assez loin, ou en tout cas pas à côté de l'endroit où se trouve le cirque. Les deux correspondent à des arts, des traditions, qui ont chacune leur intérêt ou leur qualité. Je crois qu'il ne s'agit pas pour Volodin ou pour le narrateur, de dire que le concert de musique serait quelque chose de supérieur et le cirque quelque chose de banal pour la rue. Mais cette pensée est au contraire mise en avant par les frondistes. Ce sont les frondistes qui désignent l'art du cirque comme l'art du peuple, qu'ils appellent populaire, et le concert de mélomanes comme une élite, et évidemment en inversant la valeur qui était traditionnellement aux mots élite et peuple, élite étant en haut, le peuple étant en bas, les frondistes inversent cette position en disant le peuple c'est ce qu'il y a au-dessus de tout, et l'élite, ce sont des gens dont il faut se débarrasser. Dans ce sens, on voit bien que le pouvoir ou l'attitude frondiste d'un point de vue politique n'est qu'une inversion du système, disons, traditionnel, hein, de la verticalité des classes politiques. Des classes. Verticalité des classes. On est arrivé à la page 72, hein, oui, c'est ça. Donc le narrateur pense maintenant que le concert devrait être annulé, parce qu'on ne peut pas avoir justement ce rapprochement des deux lieux sans que ça annule l'un ou l'autre. Donc si le pouvoir développe le cirque, ça veut dire que le concert est annulé. Mais c'est la façon de penser du narrateur. Et c'est là qu'est le piège. C'est-à-dire que le narrateur ne peut pas penser comme un frondiste. Et un frondiste peut penser comme le narrateur. Il y a une sorte de supériorité, hein, de l'intelligence des frondistes pour créer une situation dramatique. Et le narrateur donc entre dans le théâtre pour demander ce qui se passe. Il frappe à une petite fenêtre, on lui répond et on lui explique en bas de la page 72 le quatuor Gilas se produira comme prévu. Oui, il jouera les œuvres inscrites à l'affiche, hein, comme si on répondait à des questions du narrateur. J'ai eu au téléphone les représentants des autorités, de toutes les autorités, insista-t-il. Nous ouvrirons les portes normalement à 7h30. Voilà encore une heure qui est proposée. Et au milieu de la page 73, la métamorphose de l'espace progressait. Je consultais ma montre, 7h05. On avance. Et puis maintenant, c'est l'installation du filin, hein, du câble pour les acrobates au milieu de la page 73, avec un petit problème. Hein. Il semblerait qu'on accroche ce câble, ce filin, donc, entre un réverbère et un coin de mur. Et apparemment, ça n'est pas horizontal. Donc normalement, c'est horizontal. Hein. Mais ça va être pas tout à fait horizontal. C'est un peu bricolé aussi, hein. Ce bricolage est signalé un peu plus tard. À la page 74, donc ce calcul à la deuxième ligne, hein, ce calcul avait caressé probablement l'esprit des responsables. La dissuasion fonctionnerait. Un tri naturel s'effectuerait. Seuls des hommes et des femmes résolus, exaspérés par le frondisme et désireux que cela se sût, aurait l'audace d'affronter une cohue dont la présence de la garde civile modérerait à peine l'hostilité. Quelle est l'idée exprimée ici? C'est l'idée du tri. L'idée du tri ou bien l'idée de la passoire. Tout le monde sait ce que c'est une passoire. Lorsque vous utilisez une passoire, ça veut dire que vous allez mettre quelque chose dans la passoire et il y a une partie qui va passer et une partie qui va rester. Vous savez très bien que si vous utilisez une passoire à petits trous ou à gros trous, ça n'est pas pour le même usage. Si vous utilisez des gros trous, tout va passer, ça ne sert à rien. Et si vous utilisez des trop petits trous, rien ne va passer. Alors ici, quelle est cette passoire? Eh bien, pour entrer dans le théâtre, il faut passer à travers la foule. Il faut passer devant les frondistes. Qui va passer? Ceux qui détestent vraiment les frondistes et qui veulent, sans rien dire, montrer qu'ils préfèrent la musique. D'autres qui peut-être aiment bien la musique, ont déjà leur billet pour le concert, mais s'inquiètent un peu, ou alors qui aiment bien aussi le cirque, ils vont hésiter, qui ont peur de la foule qu'il faut traverser, ils ne vont pas y aller. Donc, ceux qui vont y aller, ce sont, ici à la cinquième ligne, seuls des hommes et des femmes résolus. seuls des hommes et des femmes résolus. Ce sont eux qui vont passer à travers cette passoire et qui vont entrer dans le théâtre pour aller assister au concert. De cette façon, les frondistes vont trier les personnes qui voudraient aller au concert et il n'y aura dans la salle de concert que ceux qui sont absolument convaincus de la supériorité de la musique sur le frondisme ou sur le cirque. Vous voyez comment ça se passe, la passoire. Alors la passoire se transforme ensuite en as. Donc on peut en fait articuler en deux parties. Une première partie, c'est la passoire. Vous arrivez sur la place, vous décidez d'y aller ou pas, de monter les marches pour entrer dans la salle de concert ou pas. Vous avez le choix. Et une fois que vous êtes entré, vous ne pouvez plus ressortir. C'est le piège. Si c'était seulement la passoire, ça veut dire qu'on peut sortir de l'autre côté, on peut partir. Mais la passoire, c'est le piège. On arrive à la page 75. Le narrateur a bien compris cette situation, bien suivi tout ce qui s'est passé, la préparation, l'installation, et il arrive chez son ami Dojna. Il arrive chez Dojna, je pense, avec l'intention tout à fait convaincue de ne pas aller au concert et de dire à Dojna que c'est pas la peine d'y aller. Mais lorsqu'il explique cela à son ami, en haut de la page 76, troisième ligne, il dit donc « Ensuite nous discutâmes, j'avais résumé la situation, je ne me déclarais guère partisan de l'héroïsme gratuit. Je n'encourageais pas Dojna à subir l'épreuve d'une immersion au sein de la cohue malveillante qui serait déjà tassée, galvanisée sur les gravins, déjà odieuse, déjà incontrôlable. Je nous voyais mal monter vers l'atrium, c'est l'entrée de la salle de concert, entre deux rangées de gardes civils, sous les quolibets, etc. » Donc, la conviction du narrateur, c'est « on n'y va pas. Je n'imagine pas que l'on puisse entrer. » La réaction de Dojna, c'est le contraire. Je ne dis pas que c'est une réaction très intelligente, c'est une réaction de rébellion. Rébellion, protestation, contradiction aussi. Donc au milieu de la page 76, outré par la proximité très concrète de cette menace, choqué autant que moi et rebelle plus que moi, Dojna résolut de s'habiller sans plus tarder. Elle voulait se présenter aux portes dès leur ouverture. « Ah non, ils ne m'imposeront pas leur sale célébration, leur cirque, enrageait-elle. Ils ne me condamneront pas à écouter leurs zagbels si j'ai envie d'écouter un quatuor. » Ses pommettes avaient rosi. Ah, vous voyez, c'est une sorte de colère naturelle, de contestation politique, qui vient de l'intérieur. Il dit « Non, je vais protester. » Alors cette protestation, on peut aussi l'appeler une forme de résistance passive. L'expression résistance passive renvoie, pour l'histoire récente, à la Seconde Guerre mondiale et un livre, par exemple, que vous connaissez peut-être, ou bien le film intitulé « Le silence de la mer ». D'un écrivain qui a pris le nom de Vercors, V-E-R-C-O-R-S. Et dans ce roman, qui est un court roman, on pourrait même dire une nouvelle, une famille composée d'un père et de sa fille est obligée d'accueillir dans leur maison un officier.
Comment? Contre Edmis. C'est pas père, fils.
Oncle et nièce.
Oui.
Ah bon, merci. Dans mon idée, dans ma tête, c'était père-fils. Alors très bien. Oncle et nièce, allons-y. Et ils sont obligés d'accueillir dans la maison, dans leur maison, un officier allemand. Alors il se trouve que cet officier allemand est très poli, très bien élevé, très éduqué, et il essaye d'être sympathique, d'avoir des relations avec les propriétaires. Il essaye d'être sociable, ou amical, ou fraternel. Mais pour les gens qui habitent cette maison, ils sont obligés de l'accueillir, leur pays est envahi par les Allemands, ils décident d'être totalement silencieux, muets, de ne rien dire. Malgré la beauté du jeune homme, sa politesse extrême, la jeune fille est un peu sensible tout de même au charme du beau jeune homme. Bon, ils vont résister de cette façon passive. Bien sûr, la résistance passive s'oppose à la résistance active, celle qui s'organise en petits groupes pour faire des attentats contre les Allemands. Mais cette résistance passive a été extrêmement valorisée parce que tant que l'on résiste passivement, ça veut dire que l'on reste fidèle à ses propres idées, ses convictions, et c'est une possibilité tout de même de lutter contre un ennemi. S'oppose alors d'une autre façon à ceux qui collaborent. Donc on peut mettre verticalement. Là encore, voilà. Ce qui complique beaucoup la situation hein, quand on étudie l'histoire de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, mais d'autres pays aussi, en Pologne, en Belgique, ou dans d'autres pays, on pourrait étudier les mêmes questions, les mêmes problèmes. En effet, il y a une résistance passive, une résistance active, il y a également une collaboration passive et une collaboration active. Collaboration passive, c'est simplement de sourire aux Allemands, en disant « Ah, ils sont beaux, ils sont... » Voilà, on est quand même assez de leur côté, disons, même si on fait rien. Bon. Et puis, une collaboration active, alors, qui consiste à vraiment travailler pour les Allemands, avec les Allemands. Le silence de la mère ne montre pas, justement, d'action de résistance active, très héroïque, etc., mais une sorte d'héroïsme minimal, hein, de base. Et pourquoi ce texte est important? Eh bien, c'est parce qu'il est publié pendant la guerre, par une maison d'édition secrète interdite qui s'appelle les Éditions du Minuit. Et c'est justement la fondation des Éditions du Minuit, parce qu'on imprimait la nuit dans des caves que l'on essayait de protéger des Allemands et des collaborateurs, et le vrai écrivain, hein, qui était une sorte de journaliste, caricaturiste, qui s'appelle Jean Brûlé, avait pris le nom de Vercors dans un groupe de résistants, où chacun avait pris le nom d'une région. Et, il y en avait d'autres, évidemment, qui ont publié. Le silence de la mer était donc le premier livre publié par les éditions de Minuit, secrète pendant la guerre, et ensuite vendu ou donné, distribué comme ça. Et tout était dangereux dans cette action, hein. Le fait d'écrire, le fait d'imprimer, le fait de distribuer ou de vendre. Revenons à nos moutons. Et donc, l'héroïsme gratuit dont parle le narrateur est justement, en quelque sorte, choisi par Dojna. Elle décide de choisir cette sorte d'héroïsme gratuit qui consiste à y aller quand même. Ici, le « quand même » est très important. Hein. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui décide d'y aller quand même? Eh bien, c'est comme s'il y avait une production d'une sorte d'hormone un peu spéciale qui serait l'espoir. L'espoir fou. En bas de la page 76, avec des verbes au futur, hein, on en trouve plusieurs, page 76-77. « Ah non, ils ne m'imposeront pas leur sale célébration, ils ne me condamneront pas à écouter, etc. » Et page 77, presque au milieu de la page, « Ils ne me presseront pas, dit-elle, sous leur cochonnerie de bottes paramilitaires. Hein, » donc, grâce à ces espoirs de ce que les frondistes n'oseront pas faire, hein, donc, on choisit quand même d'y aller. Au passage, on a découvert que Dojna était peintre, sculpteur, son appartement un peu galerie, musée de ses propres œuvres, et le narrateur connaît bien ses œuvres. En haut de la page 77, il signale les montagnes photographiques de sa période surréaliste, les mobiles, etc., etc. Donc il y a eu chez cette femme peintre une période surréaliste. Ici, le mot surréaliste est utilisé donc à l'occasion d'un personnage, mais c'est une indication importante pour Volodine. En effet, c'est le seul nom d'un mouvement d'art, d'un mouvement de peinture qui est donné dans le livre, et donc c'est le seul qui renvoie à notre monde, à nous. Et donc il ne parle pas des impressionnistes ou des hyperréalistes ou d'autres choses, mais des surréalistes. C'est une indication un peu codée pour les lecteurs de Volodine qui savent bien que Antoine Volodine en quelque sorte reprend un certain nombre de choses, un certain héritage, si on peut dire, du surréalisme. Peut-être plus que du nouveau roman. Enfin bon, pas très important d'aller dans cette direction. Voilà donc ce qui a été décidé, et les voilà partis, page 78, presque au milieu de la page. Nous arrivâmes en vue du théâtre entre 8h moins 25 et 8h moins 20. Oui, c'est très précis, hein, la notion de l'heure avance et le suspense avance en même temps. Alors ils arrivent donc en vue du théâtre, c'est-à-dire ils voient tout l'ensemble du panorama qui a été installé et qui a encore évolué depuis le passage du narrateur. Maintenant, il y a de la foule partout, les lumières, les haut-parleurs, système sonore, et il faut traverser cette foule. En bas de la page 78, les trois dernières lignes, l'effet qui en résultait assommait l'individu et exaltait la foule. Celle-ci était dense et grossissait. Le service d'ordre du parti canalisait le flot des sympathisants. Il veillait à le répartir de manière égale, selon un plan certainement mis au point de longue date. Fantaisie et improvisation ne comptent pas parmi les valeurs à quoi s'abreuve le frondisme. Le square s'effaçait sous les légions piétinantes, mais les escaliers du théâtre restaient vides. Donc vous voyez comment l'organisation extrêmement précise et détaillée des frondistes, hein, pas du tout improvisée, comme tout ce que faisait la propagande du Troisième Reich, hein. On a parlé bien sûr de Goebbels, Joseph Goebbels, qui était le ministre de la propagande et qui lui-même organisait ce genre de choses dans l'Allemagne nazie des années 30-40. Alors, cette organisation va concentrer la foule en une grande partie de la place, mais laisser les marches du théâtre complètement libres. Hein, donc il y a une volonté justement d'opposer les deux parties, et devant ces marches, c'est la suite, hein, un triple cordon de membres des sections de choc en uniforme paramilitaire stationnait sur les premières marches pour en couper l'accès. Donc la foule est contenue à l'intérieur d'un espace et du côté du théâtre où il y a des escaliers, il y a trois rangées de policiers, de militaires qui empêchent la foule de passer. Mais lorsque des gens arrivent avec l'intention d'aller dans le théâtre, c'est exactement comme les petits trous de passoire, hein, les militaires s'écartent et laissent passer les gens. Donc c'est à la fois trous de passoire et partie de la nasse, hein, qui s'écarte pour laisser passer le poisson ou l'oiseau. Et donc en bas de la page 79, tant bien que mal, nous approchions des hommes de la section de choc, ils entr'ouvrirent les maillons de la chaîne et nous autorisèrent le passage sans attendre les explications que nous avions ruminées. Donc il n'y a pas d'explication, simplement on voit l'intention de passer, hein, la volonté d'aller dans le théâtre, donc on laisse passer. C'est pas la peine de parler. Les voilà donc qui entrent en même temps que d'autres personnes et petit à petit se retrouvent à l'intérieur. Page 80, sixième ligne. Donc d'autres personnes gravissaient les degrés de pierre, les marches du théâtre. Donc ceci, deux points, ils ne rentraient pas dans les intentions frondistes de bloquer l'admission au concert. On avait voulu seulement dissuader les moins intrépides. C'est ce que j'appelle la passoire, choisir les plus et dissuader les moins. À la page 81, finalement, on regarde du haut des marches le spectacle qui s'offre en bas de la foule et on repère, on remarque d'un côté les saltimbanques. Les saltimbanques, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans le cirque et qui vont devoir faire le spectacle après. Et ils sont comme des animaux en captivité. On voit bien qu'ils sont tenus, contrôlés par les frondistes. Ils ne sont pas là volontairement pour s'amuser ou faire leur travail comme ils aiment d'habitude le faire, mais cette fois ils sont tout à fait obligés. Et en même temps, le narrateur et son ami ne peuvent pas bien comprendre la situation, dans quelle situation sont les gens du cirque. Donc ils s'expriment très précisément à la suite. Nous décidâmes de penser qu'il se trouvait là sous la contrainte. Nous décidâmes de penser. Ah, donc on est là en haut des marches, on regarde les saltimbanques. Ils n'ont pas l'air très volontaires. Hein. Bon, on va décider de penser qu'ils n'ont pas choisi de venir. Et dans un sens, c'est mieux, parce que ça veut dire qu'ils sont obligés, donc peut-être ils ne sont pas d'accord, mais ils n'ont pas le choix. Et il confesse, il avoue très précisément, nous n'avions pas beaucoup de renseignements sur le monde marginal des forains, qui ne remuait pas chez nous, que des souvenirs littéraires ou des souvenirs d'enfance. Mais nous avions plutôt tendance à imaginer là un univers libre, libertaire, laborieux et fraternel, où les adeptes de Balint Zagebel devaient être rares. Ah, donc ce sont des suppositions sur une population un peu marginale, des forains, donc saltimbanques, forains, gens du cirque. Et donc, trois lignes en bas de la page 81, nous consument aussitôt de la sympathie pour ces musiciens inertes. Donc une sympathie comme quelqu'un qui se sent hein, du même côté de ceux qui sont obligés. Au milieu de la page 82, c'est avec les autres personnes qui sont entrées, qui entrent dans la salle de concert. Donc des couples, des gens montent, émergent de la foule, hein, émerger, donc sortir et monter, traverser les mailles du service d'ordre et escalader lentement, comme en un ralenti cinématographique, les marches. Une solidarité spontanée naissait entre ces gens. Donc ceux qui passent, ceux qui montent, sont ceux qui ont vraiment, hein, comme on a dit tout à l'heure, seuls ceux qui, etc. Donc ils se reconnaissent et il y a entre eux une sorte de solidarité. Nous avons choisi ça, donc nous nous reconnaissons comme ceux qui, seuls ceux qui peuvent y aller, veulent y aller. Et bien sûr, des gens se reconnaissent parce qu'ils appartiennent à un même groupe social de gens qui se voient régulièrement au concert ou au spectacle. L'information vraiment extraordinaire et imprévisible pour nos amis, c'est à la page 83, le choc, je crois, pour tout lecteur, à la quatrième ligne, aucune ouvreuse n'était là, juste avant l'ouverture des portes, m'apprenait l'employé, les frondistes avaient payé pour 300 fauteuils, achetant ainsi beaucoup plus de place que ce que l'administration pouvait ou voulait leur vendre. Je ne sais pas quelle était votre réaction à la lecture, mais c'est vraiment surprenant de se dire qu'ils ont acheté 300 places. Et ça correspond vraiment à la psychologie d'un côté qui n'est pas imaginable lorsqu'on est de l'autre côté. Si on est du côté du narrateur, on ne peut pas imaginer que les frondistes vont acheter des places. On peut imaginer que par la force, ils vont entrer et s'installer. Mais non, ils achètent des places. Ils achètent des places, ça veut dire qu'ils ont le droit de venir. On ne peut rien leur reprocher. On ne peut pas leur reprocher d'être des barbares. On ne peut pas leur reprocher de vouloir tuer les musiciens, tuer au sens métaphorique, de priver de moyens. Non, non, on vous achète les places, on vous donne de l'argent. Votre travail est considéré. Et après, alors, pour donc le narrateur et son ami, pour tous les autres gens qui sont là, cette attitude des frondistes n'est pas compréhensible et elle provoque bien sûr de l'angoisse. Donc au milieu de la page 83, quant à moi, je ne savais pas trop que penser, sinon que mon plaisir serait gâché si je devais écouter les plus belles pages de Tamian Ishkuat en partageant mon oxygène avec Balin Zagebel et ses commandos. Tout se conjuguait pour rendre la soirée affreuse, angoissée et angoissante. Il me semblait que depuis une heure, nous nous déplacions en aveugle le long d'un ravin à la merci des moindres traîtrises du sol. Alors cette comparaison est très intéressante parce que elle nous donne une ressemblance avec un événement qui arrivera beaucoup plus tard. Il me semblait que depuis une heure, nous nous déplacions en aveugle le long d'un ravin à la merci des moindres traîtrises. Qu'est-ce que ça veut dire se déplacer en aveugle? Donc vous avez les yeux comme ça et vous marchez au bord d'un ravin, c'est-à-dire sur un tout petit chemin, au bord d'une falaise, d'un ravin comme ça. Et cette image est très proche de l'image du funambule sur son fil. Alors si vous avez lu jusqu'à la fin, vous savez aussi que plus tard, on va obliger quelqu'un à marcher sur le fil, quelqu'un qui n'a pas l'entraînement et qui donc va faire quelques pas et puis tomber. Et donc cette image de la chute, ici comme comparaison, deviendra réelle par la suite. Voilà pour la situation. Alors, tous nos camarades, j'emploie le vocabulaire exprès, tous nos camarades sont entrés maintenant dans la salle. Ils sont là pour écouter leur musique et à côté d'eux, au milieu d'eux, les frondistes entrent, eux aussi, et vont s'installer. Où est-ce qu'ils entrent d'ailleurs ? Voilà. Donc ils entrent à la page 89, hein, là où j'ai commencé à lire tout à l'heure. Donc on peut sauter ces quelques pages où le suspense continue à progresser un peu de la même façon que ce que nous avons vu, avec toujours du côté du narrateur, de son ami, de ses amis, une angoisse qui vient de l'incompréhension, l'impossibilité de comprendre le plan qui a été décidé et la psychologie qui se trouve derrière de la part des frondistes ou de la part de Zagebel. Alors là où j'ai commencé à lire tout à l'heure, à la page 89, les voilà donc qui entrent dans la salle de concert et qui s'installent de façon tout à fait normale, entre guillemets, hein, pour un groupe. À la page 90, comme on a lu tout à l'heure, les lumières de la salle s'éteignent et c'est la rampe qui s'allume ainsi que les projecteurs des cintres au milieu de la page 90. Il y a quelques bruits, page 91, une plaisanterie parmi les frondistes, mais le silence revient assez rapidement, comme s'il était demandé ou imposé par le chef. À la page 92, c'est là où je me suis arrêté tout à l'heure, hein, la salle était à présent comble, on avait fermé les portes capitonnées, on arrive au silence à peu près, et puis le mot « voilà ». Le mot « voilà » tout seul indique bien que nous sommes arrivés à la fin de quelque chose. C'est la fin de tout ce qui se préparait depuis le matin. Du côté frondiste, on avait prévu d'organiser tout cela jusqu'à maintenant, et tout cela s'est déroulé, organisé de façon parfaite. Du côté du quatuor, des musiciens, eh bien, ils se sont préparés et ils sont maintenant sur la scène, ils sont prêts à jouer. Du côté du public, du narrateur et de son ami, et également du côté des trois ex-prisonniers qui ont obtenu un billet gratuitement, eux aussi ils sont là et ils sont prêts. Tout est prêt, tout est en place, il n'y a plus qu'à commencer. On va donc, comme il dit à la page 94, maintenant, « Je ne comprends pas, moi non plus, dis-je, mais, deuxième ligne, nous allions vite le découvrir. » Nous allions vite le découvrir. Donc, on était dans le passé, et puis d'un seul coup, on va vite découvrir quelque chose, donc on est dans une sorte de futur. Donc, page 94, juste après ce que j'ai lu tout à l'heure, « Ils attaquèrent le début du troisième quatuor » de Naïsso Baldacchan. Pour la dernière fois de cette soirée, j'avais consulté ma montre, elle indiquait 8h17. Bon, hein, le narrateur n'est pas complètement absorbé dans la musique, de temps en temps il regarde sa montre parce qu'il est quand même un peu angoissé, un peu inquiet. Et donc au milieu de la page 94, il me semblait pourtant que cette paix intense ne durerait pas. La salle se taisait, etc. Mais, juste après, on ne pouvait croire que les frondistes écouteraient religieusement l'œuvre d'un compositeur de l'émigration, tellement répugné par le bellicisme et les mensonges qu'il s'était jeté sous un train, tellement écœuré par le discours humaniste des criminels de guerre en action à Champrouge, qu'il avait épinglé sur son pullover avant de partir vers la mort une très explicite prière « De grâce, ne m'enterrez pas avec des représentants de la race humaine. » Alors, je n'ai pas retrouvé d'origine de cette citation, mais il me semble avoir déjà entendu ce message quelque part, quelqu'un qui demandait qu'on ne l'enterre pas avec d'autres êtres humains, dans un refus complet de l'être humain, de l'humanité. On voit bien comment l'humanité est piégée d'ailleurs, parce que le discours des criminels de guerre, ce discours est humaniste. Et effectivement, lorsqu'on écoute les discours des nazis, mais également dans d'autres pays, peut-être encore aujourd'hui, dans certains pays, le discours politique humaniste est de gens qui sont parfaitement criminels. C'est tout à fait possible d'avoir ce double langage. Donc, on arrive à ce point où, malgré le commencement du concert, on n'arrive pas à croire que ça va pouvoir finir correctement. Et en effet, c'est à la page 95 que le théâtre organisé, prévu peut-être par Zagebel, va commencer. Et donc, troisième ligne, « Mon anxiété n'avait pas été tempérée par l'ambiance feutrée, donc feutrée, calme, qui régnait maintenant dans le théâtre, puis le feutre se creva. » Alors ici, il y a d'ailleurs un double mot, double sens du mot « feutre », parce que « feutré », ça veut dire « les bruits sont amortis, les bruits sont masqués par un tissu ». Donc on met des tissus sur les murs, ça permet d'absorber le bruit, de diminuer le bruit. Et ensuite, donc, le feutre se creva, on pense alors au tissu lui-même qui va être crevé, qui va être percé par quelque chose qui vient faire un trou dedans. Au moment où Dmitri Makionian reprenait sur son violoncelle le thème ondoyant que violons et altos venaient d'exposer, une voix forte grailla dans la loge où était tapis Balin Zagebel. « Oh là là, qu'est-ce qu'on s'ennuie !» protesta la voix. « Vous n'allez pas me dire que c'est de la musique, ça. C'est de qui, hein? Qui est-ce qui nous a pondu un morceau pareil, hein ?» La réponse fusa depuis les ténèbres des deuxièmes galeries. « C'est du baldakouchian !» Les frondistes aussitôt s'esclaffèrent, à gorge déployée, braillèrent leur allégresse. « Baldakouchian, baldakouchian !» se mit à scander un petit groupe, etc., etc. Donc voilà, le concert est interrompu par quelqu'un qui crie, sans doute Zagebel lui-même, en disant qu'on s'ennuie. Alors, c'est une forme d'interruption qui est extrêmement violente. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au concert. Bon, il arrive jamais que quelqu'un interrompe le concert. Et quand quelqu'un tousse un petit peu comme ça, tout le monde le regarde de façon haineuse. Hein, bon. Donc là, évidemment, c'est tout à fait intentionnel. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Et qu'est-ce que c'est que cette musique? La voix qui sort de la loge se trouve métaphorisé ou transformé, si vous voulez, par le verbe qui a été choisi. Une voix forte grailla dans la loge où était tapis Balin Zagebel. En fait, dans cette phrase, il y a même deux mots qui renvoient à des animaux. Le verbe grailler. Où est-ce qu'il est, mon verbe grailler? C'est pour un oiseau, en particulier un corbeau, le fait de crier. Alors pour les corbeaux, on utilise également le verbe croasser. On dit que le corbeau fait croa. Donc il croasse. Mais il y a aussi le verbe grailler. Ce qui veut dire que cette voix que l'on entend imite celle du corbeau. Et donc déjà par la voix, il y a quelque chose de moqueur, d'ironique, pour ridiculiser la musique, et qui s'adresse aux musiciens avec une voix qui imite celle d'un oiseau. Alors volontairement, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, je ne sais pas si je peux imiter le corbeau, Mais ça serait alors, il faut changer avec Graya, Graya dans la loge où était tapis Balin Zagebel. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'ennuie, protesta la voix. Vous n'allez pas me dire que c'est de la musique. Ah, vous essayez de prendre une voix de corbeau. Bon, je suis pas très doué pour ça, mais un acteur pourrait le faire. Mais en effet, le fait de transformer sa voix signifie déjà quelque chose. Sans le dire, il prend une voix d'oiseau. Pourquoi il prend une voix d'oiseau? Il n'est pas un oiseau, il est contre les oiseaux. Parce qu'il s'adresse à des musiciens qui ont des noms d'oiseaux ou de nègres. Pareil, presque. Donc, en choisissant sa voix, il insulte déjà les musiciens et peut-être d'autres gens. Et bien sûr, il amuse ses propres frondistes. Donc, c'est le grand rire de tout le monde. La réponse fusa dans les galeries et en déformant le nom du compositeur. Le compositeur s'appelle Baldakchan, et il est déformé en Baldakushian. Et en même temps répété par tout le monde. Alors évidemment, Dojna commence à pleurer, elle est très choquée par la situation, mais la situation ne va faire que se développer vers le pire, évidemment. En bas de la page 96, je vais suivre maintenant les paroles principalement de Zagebel. En bas de la page 96, donc, assez de Baldakchian, clama l'imperméable, on veut de la musique pour le peuple, de la musique distrayante, agréable. Les intellectuels en queue de pie ne savent pas distraire le peuple. C'est la culture populaire que nous soutenons, pas la culture de Baldakchian et compagnie. Baldakchian, non merci. Et durant une minute, la salle en liesse martela, Baldakchian, c'est chiant. Chiant, évidemment, qui veut dire désagréable, ennuyeux, d'une façon très vulgaire. Dans cette parole de Zagebel, ou d'un autre équivalent, il utilise la désignation des mélomanes, des amateurs de musique, en bas de la page 96 et ensuite, les intellectuels en queue de pie. Qu'est-ce que c'est qu'une queue de pie? C'est un costume, costume que l'on met surtout pour les musiciens, pour le chef d'orchestre, avec une chemise blanche, une veste noire, jusqu'ici à peu près, et l'arrière de la veste beaucoup plus long. Hein, donc, je ne sais pas comment vous l'appelez en japonais. Ah, donc c'est la moitié. D'accord. D'accord. Donc ça correspond à peu près aussi avec un nom d'oiseau, queue de pie. Et on va voir donc dans le langage de Zagebel une volonté d'utiliser des mots d'oiseau ou du vocabulaire des oiseaux d'une façon toujours ridicule et insultante. Donc les intellectuels, bon, déjà, c'est stigmatisant, mais en queue de pie, aussitôt, ça amuse les frondistes. Et puis, on demande aux musiciens de reprendre la musique. Mais Tchaki Esterkan, page 97, hein, presque au milieu, Tchaki Esterkan n'obéit pas, elle rangeait son alto dans son étui. Alors ça, pour Zagebel, c'est une insulte. C'est une insulte et en même temps, il peut maintenant dire qu'il a payé. Il a payé pour un concert. Et ce sont les musiciens qui décident de s'interrompre et de ranger leurs instruments. Donc il est du bon côté de la légalité, en quelque sorte, où il s'est mis volontairement. Et il reprend en bas de la page 97... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'allez pas nous fuir sous le nez comme une volée de pinsons. Volée de pinsons, c'est-à-dire un groupe de petits oiseaux qui s'appellent des pinsons. Ah non, pas question, nous avons payé pour un spectacle complet. Ces braves gens ont payé et pas en roupies de Sansonnet. Permettez-moi de vous le dire. Les militants se plièrent en deux. Alors, plier en deux, ça veut dire de rire. Tellement ils rient. Plier en deux. Les militants se plient en deux. Bon. Là encore, pourquoi les militants rient? Parce que il y a des expressions avec des noms d'oiseaux qui se trouvent déformés, employés dans un autre sens. Alors, voler de pinson, ce sont des petits oiseaux qui s'envolent dès qu'on approche, c'est-à-dire, ils ont peur. Les petits oiseaux ont peur. Donc, voler de pinson, ça veut dire, vous êtes des gens qui ont peur. Vous avez peur de n'importe quoi. Roupie de Sansonnet. Qu'est-ce que ça veut dire, roupie? Alors, à l'origine, le mot roupie, il y a deux mots roupie, tout à fait différents l'un de l'autre. Un mot roupie, ça veut dire quelque chose qui coule du nez. Alors aujourd'hui, on utilise un autre mot, on dit la morve, qui coule du nez quand on est enrhumé, les enfants oublient leur mouchoir, ça, voilà, ça s'appelle la roupie. Et il y a un autre mot roupie qui est la monnaie. La monnaie dans un certain nombre de pays, par exemple l'Inde ou le Pakistan, où on utilise ce nom de roupie en français, hein, qui est le français de roupia. Et donc les deux mots sont tout à fait différents. Mais la roupie de Sansonnet, c'est donc ce qui pourrait couler du nez d'un oiseau, petite goutte comme ça qui se forme, et en même temps l'expression c'est « ces braves gens ont payé, payé donc avec de l'argent, en et pas en roupie de Sansonnet ». C'est-à-dire une mauvaise monnaie, une fausse monnaie. Ils ont payé avec de la vraie monnaie. Et donc le mot roupie de Sansonnet, enfin l'expression roupie de Sansonnet, se trouve employée avec les deux sens de roupie. Et ça fait rire tout le monde. Parce que si on emploie l'expression dans son bon sens, ça n'amuse personne. On regarde un oiseau, un Sansonnet, et on dit, voilà, il y a de la roupie de Sansonnet. Ben, c'est pas amusant. Si on s'approche de petits oiseaux et qu'ils s'envolent, et on dit un vol de pinson, une volée de pinson, c'est pas amusant. Ce qui est amusant, c'est lorsqu'on déforme, lorsqu'on change la situation. Et donc, page 98, toute mention d'oiseaux les chatouillait de façon ignoble. Les chatouillait, hein, comme si on les chatouillait avec les doigts pour les faire rire, hein, les amusait beaucoup. Les musiciens, alors ils continuent à parler, hein, assis, tout le monde se rassied, les musiciens vont reprendre leur nid à poussière. Alors là, vous allez avoir que des expressions d'oiseaux. Vont reprendre leur nid à poussière et nous crinquiner une petite danse. Allez, madame et messieurs, jouez-nous de jolis refrains populaires, turlutez-nous une passacaille, du nerf, bon sang, montrez à vos admirateurs que vous n'êtes pas des poules mouillées. La salle croulait de rire, entre parenthèses, très pâle et très belle, sous les lumières de la rampe, Tchaki Esterkhan refermait l'étui de son alto. Donc pas du tout obéissante. Alors les expressions d'oiseaux, nid à poussière. Qu'est-ce que c'est un nid à poussière? C'est un objet un peu compliqué que vous avez à la maison et qui est un peu difficile à nettoyer. Donc, à chaque fois, il y a toujours de la poussière qui se met dedans. On appelle ça un nid à poussière. En même temps, c'est un objet un peu vieux, qu'on n'aime pas beaucoup. Comment s'en débarrasser? Bon, voilà. Et puis, nid au sens de nid d'oiseau, hein, donc nid à poussière. Crinquiner. Alors, crinquiner, c'est un verbe inventé par Volodine ici, qui vient de crin-crin. Le crin-crin, c'est un mauvais violon. Ça, c'est le crin-crin. Allez, madame, messieurs, turlutez-nous une passacaille. Alors, turluter, c'est chanter. Pour un certain nombre d'oiseaux, on peut utiliser ce verbe, des alouettes, par exemple. On dit qu'elles turlutent. Donc, chanter. et une pasacaille. Pasacaille, je pense que vous connaissez comme nom de pièce de musique. Pièce de musique classique qui s'appelle la pasacaille. Dans le mot pasacaille, vous entendez caille, petite caille. C'est un petit oiseau, hein, au Japon aussi, on le connaît. Hein. On en mange aussi. Hein. Mais l'origine de ce mot, c'est en espagnol, pasa en la calle, c'est-à-dire qui passe dans la rue. C'est une pièce de musique assez courte et qui montre une sorte de marche, de progression, comme quelqu'un qui marcherait dans la rue. Pasar en la calle. Mais en français, pasacalle, il n'y a plus de rue, il y a un oiseau. On a l'impression de voir un oiseau. Là, c'est encore déformé. Enfin, poule mouillée, ça c'est une expression bien courante, qu'on utilise pour quelqu'un qui a peur. On dit, allez, du courage, ne soyez pas une poule mouillée. Parce que, si vous avez vu déjà, les poules n'aiment pas beaucoup être mouillées, un peu comme les chats, hein. N'aiment pas beaucoup ça. Voilà. Alors, nous sommes arrivés en quelque sorte au comble, c'est-à-dire au maximum de la violence verbale. Et cette violence verbale ne peut pas continuer. Elle va nécessairement déboucher sur une violence physique. Et au moment où les musiciens vont partir, il y a des militaires qui vont descendre pour se mettre derrière et les empêcher de sortir. On se retrouve maintenant dans le piège tout à fait actionné. Tout le monde est enfermé à l'intérieur de la salle de concert et on va avoir une sorte de coup de théâtre avec un mort et puis un autre mort et puis ensuite on va faire sortir tout le monde. Je vous propose de garder pour la semaine prochaine, hein, la fin tragique du spectacle à l'intérieur de la salle puis à l'extérieur. Donc on finira la semaine prochaine, on n'a pas le choix d'ailleurs, le dernier cours. Merci et à la semaine prochaine. Ça va, on a tenu avant midi.